L'histoire de Suzanne et des vieillards, dans le livre du prophète Daniel, nous amène aujourd'hui au moment central du récit, moment fatidique et assez atroce, puisqu'il s'agit tout simplement d'une menace de viol. La belle Suzanne, dans son jardin, est agressée par deux vieillards, soi-disant respectables, qui veulent la contraindre à se donner à eux, je cite, « La porte du jardin est close, personne ne nous voit, nous te désirons, couche avec nous. Et si tu refuses, nous t'accuserons en disant que nous t'avons surprise avec un autre homme. » Ils s'y connaissent, les accusateurs, étant eux-mêmes des juges. Ils savent qu'au tribunal, d'après le Deutéronome, la parole de deux ou trois témoins fait autorité. Ils ont tout prévu, ils ont tout pour eux, leur âge, leur fonction, leur prétendue bonne foi. Et le piège se referme sur la pauvre Suzanne. Elle a beau crier, les vieillards crient encore plus fort. Et cette femme pure est dénoncée comme adultère devant son mari éberlué. Que nous dit Hippolyte de Rome, père de l'Église qui commente ce récit au IIIe siècle, de cette situation tragique? Eh bien, il y voit l'image de l'Église persécutée. Celle de son temps, bien sûr, puisqu'au IIIe siècle, les chrétiens étaient parfois arrêtés et condamnés. Hippolyte lui-même mourra martyr. Mais aussi l'Église de tous les temps et de tous les lieux. Ceux où les chrétiens sont physiquement attaqués, comme aujourd'hui au Moyen-Orient, mais aussi ceux où ils sont injustement critiqués, dénigrés, comme c'est parfois le cas en Occident. Des lieux où les ennemis du christianisme n'attendent que l'occasion de le mettre en accusation. Alors ils crient fort, ils crient au scandale, et ils se régalent quand ils ont de quoi alimenter la machine à dénoncer. Le vieux procédé marche toujours, qui consiste à jouer sur les apparences, à confondre les plans, à brouiller la vérité. On brandit un fait, ou ce qu'on présente comme tel, et on en fait un motif de soupçon global, sans se donner la peine d'y regarder de près. Nous les connaissons bien, ces rengaines accusatrices, ces mises en cause de l'Église, au nom des croisades, de l'Inquisition, de la pédophilie, que sais-je. Il n'est pas question ici, je le précise, de justifier ou d'excuser les erreurs et les fautes, parfois énormes, parfois abominables, que des hommes se réclamant du christianisme ont commises à travers les siècles. Il est juste question de dire que l'Église du Christ n'est pas cela, qu'elle est, par essence, tout simplement le contraire, qu'elle ne peut pas être confondue avec ce que l'Évangile rejette, avec ce que le Christ dénonce, avec ce que la morale condamne. Que la vocation de l'Église, c'est d'être en ce monde comme Suzanne, dans son jardin, droite et innocente. D'être elle-même un jardin de beauté, de sainteté, de gratuité. D'être témoin jusqu'à la mort, si besoin est, de la vérité et de la bonté. Là où vous trouverez ces choses, l'innocence, la vérité, la sainteté, la bonté, là est l'Église dans son mystère, là est le jardin secret de Dieu. Là est l'Église, à ne pas confondre avec les caricatures que les hommes en font parfois, et même, dramatiquement, de prétendus hommes d'Église. Hippolyte est tout à fait conscient de ce drame, lui qui commente l'accusation de Suzanne en disant, je le cite, L'Église est persécutée de façon angoissante, non seulement par ses ennemis, mais par ceux qui se disent chrétiens et ne le sont pas. C'est là le vrai scandale, celui contre lequel Jésus fulmine avec des paroles terribles, celui de l'hypocrisie religieuse, qui consiste à cacher des actes totalement contraires à la foi en faisant semblant d'y adhérer, qui consiste à saccager le jardin en faisant semblant d'en être le jardinier. L'affaire n'est pas simple, car ils sont partout, ces hypocrites. Ils sont au-dedans de l'Église comme des intrus et des parasites, quand ils la souillent par leurs actes mauvais, mais aussi quand ils la divisent par des jugements exclusifs, par des critiques systématiques, par des positions partisanes, quand ils détruisent la communion entre chrétiens au nom d'un christianisme soi-disant authentique. Mais les hypocrites sont aussi en dehors de l'Église et ouvertement contre elle, quand ils lui reprochent à grands cris des choses qu'ils pratiquent eux-mêmes, sans honte et sans vergogne, par exemple l'amour du pouvoir et de l'argent. Vous connaissez le procès que les médias font volontiers à l'Église et qui consiste à montrer qu'on y trouve de l'orgueil et des rivalités, de la richesse et de la cupidité, de la puissance et du profit, bref, exactement les mêmes mécanismes que ceux qui régissent la société dont les médias sont le relais. N'est-ce pas une forme subtile d'hypocrisie ? Tout notre système est basé sur ces passions malsaines, et nous jouons les effarouchés quand nous constatons que des chrétiens en sont atteints. Nous répandons partout des images de violence, nous légitimons bien des perversions et des déviances, et nous poussons des cris quand on soupçonne tel ou tel chrétien de s'être laissé contaminer. Si c'est le cas, il est coupable, bien sûr, et il doit être jugé. Mais n'est-il pas aussi malade et victime, et peut-être en partie victime de notre hypocrite société ? Vous remarquerez d'ailleurs que très souvent, les accusations portées contre le christianisme le sont au nom des valeurs mêmes qui fondent le christianisme, ce qui est un joli paradoxe. Mais l'hypocrisie n'en est pas à une contradiction près. On connaît la belle formule très perspicace de La Rochefoucauld : l'hypocrisie est l'hommage que le vice rend à la vertu. Oui, le plus grand menteur est celui qui sait le mieux vous faire l'éloge de la sincérité, vous dire qu'il vous dit la vérité, comme le plus grand voleur sait se donner l'image d'un homme honnête et aux mains propres. Nos deux vieillards sont exactement dans ce cas. Ils accusent Suzanne d'adultère au moment même où ils veulent la violer. Ils jouent les justes, les offusqués, les défenseurs du droit, alors que ce sont eux qui tordent la vérité. La voilà donc accusée, pauvre Suzanne, pauvre Église, persécutée par ses ennemis du dehors et du dedans. Heureusement, le récit ne s'arrête pas là, et la fin de l'histoire que je vous raconterai sous peu va faire intervenir un personnage très intéressant et qui m'est cher puisque je porte son prénom. Un enfant, dit la Bible, dont Dieu suscite l'Esprit Saint et qui se lève soudain pour défendre Suzanne. Un paraclet, un avocat, un ange peut-être, qui plaidera pour elle dans le jardin où elle est accusée, qui pourfendra le mensonge des vieillards et qui pour cela prendra le jardin lui-même à témoin. Nous verrons comment.